Troisième partie. Le lendemain, vers 5 heures, Léon se présenta à l'auberge.
« Monsieur n'y est point, » lui dit un serviteur.
Cela plut à Léon. Quand la veille, il avait revu Emma après 3 années d'absence, sa passion pour elle s'était réveillée. Il fallait, s'était-il dit, penser à la posséder. Il monta chez elle.
« Vous vous êtes donc décidé à rester ? » fit-il.
« Oui, » répondit-elle. « Mais je ne sais pas si j'ai bien fait. » Ils se mirent à parler de la difficulté de vivre, de leur solitude. Léon lui déclara qu'il s'était énormément ennuyé pendant ses 3 années d'études à Paris. Il ne se rappelait sans doute plus les dîners qu'il faisait après le bal avec des grisettes. Elle aussi s'était beaucoup ennuyée. Elle avait peut-être oublié ses rendez-vous d'autrefois, quand elle courait le matin dans les herbes vers le château de son amant. « Souvent, dit-il enfin, je vous écrivais des lettres qu'ensuite je déchirais. » Elle ne répondit pas. Il continua. « J'imaginais quelquefois qu'un hasard vous amènerait à Paris. J'ai cru vous reconnaître au coin des rues. Je n'ai jamais cessé de penser à vous. Je vous ai tant aimé. »«
Je le sais, dit Emma. Je l'avais compris. »
« Est-ce possible ? » s'écria Léon. « Qui nous empêche donc de recommencer ?»«
Non, mon ami, » répondit-elle. « Je suis trop vieille. Vous êtes trop jeune. Oubliez-moi. D'autres vous aimeront. Vous les aimerez. »«
Pas comme vous !» s'écria-t-il. La nuit tombait.
« Qu'il est tard, mon Dieu !» dit Emma. « Comme nous bavardons !»
Léon comprit qu'il devait partir. « Il faut pourtant que je vous revoie avant votre départ pour Yonville. »«
Je ne crois pas que ce... »«
Je vous en prie, que je vous revoie une fois, une seule. »«
Pas ici, »
fit Emma.
« Où vous voudrez. »
Emma parut réfléchir et, d'un ton bref, elle dit
« Demain, à 11 heures, dans la cathédrale. »«
J'y serai, » s'écria-t-il en saisissant ses mains. Puis, comme elle baissait la tête, il se pencha sur son cou et y déposa un baiser.
Oh, « Mais vous êtes fou, oh, vous êtes fou !»
dit-elle avec un petit rire. Le lendemain, à 11 heures, Léon l'attendait, un bouquet de fleurs à la main. Elle arriva enfin. Léon courut à sa rencontre. Il ne lui donna pas le temps de le saluer. Il lui saisit la main et l'entraîna dehors.
« Où allons-nous donc ? » disait-elle.
Il ne répondit pas. Un gamin s'amusait sur le parvis.
« Va me chercher un fiacre, » lui dit-il.
« Oh, Léon, vraiment, je ne sais si je dois... Ça ne se fait pas, savez-vous ?»«
Ça se fait à Paris, » répliqua Léon. Cette parole la détermina. Le fiacre parut.
« Où monsieur va-t-il ? » demanda le cocher.
« Où vous voudrez, » dit Léon en poussant Emma dans la voiture. Et la lourde machine se mit en route. Elle sortit de la ville et roula dans la campagne. On vit alors, au milieu du jour, à un moment où le soleil était au plus haut de sa course, une main nue ajuster rapidement un des petits rideaux de toile jaune. Vers 6 heures, on vit la voiture s'arrêter dans une rue de Rouen. Une femme en descendit, qui marchait à petits pas pressés, sans détourner la tête. Quand Emma retourna à Yonville, Félicité l'attendait sur la place.
« Madame, aujourd'hui, c'est jour de confiture, vous souvenez-vous ? Monsieur Homais a trouvé de belles groseilles, et il veut que vous passiez les voir, si cela vous intéresse. »
Emma se rendit chez Homais. Quand elle entra dans la cuisine, elle trouva le pharmacien en train de crier après Justin.
« Qui t'avait dit d'aller la chercher dans le Capharnaüm ?
Qu'y a-t-il ? Demanda Emma.
« Ce qu'il y a ? Répondit l'apothicaire. On fait des confitures, beaucoup même, et il manque une bassine. Je lui demande d'aller en chercher une, et il va dans le Capharnaüm.
Oh, calme-toi, disait Madame Homais.
Laisse-moi, criait le pharmacien. Sais-tu ce qui pouvait se passer ? Tu n'as rien vu dans le coin, à gauche, sur la 3e étagère ?
Je ne sais pas, balbutia le jeune homme.
Ah, tu ne sais pas ! Eh bien, tu as vu une bouteille en verre bleu qui contient une poudre blanche sur laquelle j'avais écrit « Dangereux ! » Et sais-tu ce qu'il y avait dedans ? De l'arsenic ! Et tu vas prendre une bassine qui se trouve à côté ?
À côté ! S'écria Madame Homais en joignant les mains.
De l'arsenic ! Tu pouvais tous nous empoisonner !
Justin alla rapporter la bassine et l'on se calma.
Emma, se tournant vers Madame Homais, dit « On m'avait fait venir ?»«
Ah oui !» dit la brave femme. « C'est pour vous dire de prendre toutes les groseilles que vous voudrez. Elles sont si bonnes cette année !»«
Je vous remercie. J'enverrai Félicité les chercher. Bonsoir !»
Le lendemain, Emma passa une mauvaise journée. Elle aurait aimé être avec Léon. Quand pourrait-elle le revoir ?
L'heureux se présenta. Emma lui commanda des étoffes.
Pourtant, les dettes s'accumulaient. Elle ne l'ignorait pas.
L'heureux laissa faire.
Elle devenait de nouveau capricieuse. Elle voulait retourner à Rouen.
Comment ?
Un soir, elle se mit à jouer du piano, ce qu'elle ne faisait plus depuis le début de son mariage. Charles l'écoutait.
« Bravo! Tu joues très bien !»«
Non, tu n'as pas vu comme j'hésite. C'est horrible. J'ai beaucoup perdu. Oh, si je pouvais reprendre des leçons !»
Charles ne répondit rien. Mais tous les jours, elle lui en reparlait. Il finit par accepter qu'elle aille prendre des cours à Rouen. C'était le jeudi. Ce jour-là, Emma se levait de bon matin et arrivait à Rouen quand la ville s'éveillait. Elle se rendait aussitôt à l'hôtel où Léon l'attendait. La chambre était chaude, agréable, gaie. Ils déjeunaient au coin du feu, buvaient du champagne. Ils s'offraient des cadeaux, luxueux parfois. Léon se mettait souvent par terre, devant elle, et, les deux coudes sur les genoux, il la considérait avec un sourire. Elle se penchait alors vers lui et murmurait «
Oh, ne bouge pas, ne parle pas, regarde-moi. Il sort de tes yeux quelque chose de si doux qui me fait tant de bien. »
Mais l'heure de partir sonnait. Immobile, l'un devant l'autre, il se répétait
« À jeudi, à jeudi. »
Tout à coup, elle lui prenait la tête dans ses deux mains, le baisait vite au front en s'écriant
« Adieu !»
et en s'élançant dans l'escalier. Elle devint possessive. Parfois, pendant la semaine, elle trouvait un prétexte pour venir à Rouen, aller trouver Léon à son travail et l'obligeait à le quitter pour quelques heures. Ce fut un grand bonheur les premières fois. Mais bientôt, Léon lui dit la vérité. En fait, son patron se plaignait beaucoup de ses absences. Elle l'obligea à se vêtir tout en noir et à se laisser pousser la barbe. Il devait lui raconter tout ce qu'il avait fait depuis leur dernier rendez-vous. Léon se sentait là. Peu à peu, ils se mirent à parler plus souvent de choses indifférentes à leur amour. Leur passion s'étiolait. Emma se promettait continuellement, pour son prochain voyage, un bonheur profond. Puis elle s'avouait ne rien ressentir d'extraordinaire. Léon aussi se détachait d'elle. D'ailleurs, il supportait de moins en moins ses caprices et le pouvoir qu'elle voulait exercer sur lui. L'heureux revint la voir. Cette fois, c'était pour se faire payer. Les dettes étaient de plus en plus lourdes. Et elle pleura. Elle l'appela même « son bon monsieur l'heureux » et elle le supplia d'attendre encore un peu. Il partit fâché. Un soir qu'elle revenait de Rouen, où la journée avait été médiocre avec Léon, Félicité lui montra derrière la pendule un papier gris. Elle lut. Elle avait 24 heures pour payer 8000 francs. Sinon, elle y serait contrainte par la saisie de ses meubles et de ses effets.
Que faire ? C'était demain. L'heureux, pensait-elle, voulait l'effrayer. Mais ce n'était pas vrai.
Elle se présenta chez lui d'un air dégagé.
« Vous savez ce qui m'arrive ? C'est une plaisanterie, sans doute. »«
Non. »«
Comment cela ?»
Il se détourna et lui dit en croisant les bras.
« Pensiez-vous, ma petite dame, que j'allais être pendant des siècles votre fournisseur et votre banquier ? Il est temps, ne croyez-vous pas, que je rentre dans mes fonds ?»«
Oh, est-ce que vous ne pourriez pas ?»«
Non, c'est fini. Vous allez payer. »
« Je vous promets, dit-elle, que
j'en ai assez de vos promesses. Payez, entendez-vous ?
Elle se dirigea vers la porte en sanglotant.
« Vous me désespérez !»«
Je m'en moque pas mal !» dit-il en la poussant dehors et en refermant la porte.
Le lendemain, l'huissier vint, avec deux témoins, faire le procès-verbal de la saisie. Charles était absent. Quand ils furent partis, Emma alla à Rouen et se présenta chez tous les banquiers dont elle connaissait le nom. Elle leur demanda de l'argent. Certains lui rirent au nez. Tous refusèrent. Elle courut chez Léon.
« Qu'est-ce qui t'amène ? » demanda-t-il. « J'ai besoin d'argent, tout de suite !»
Elle lui raconta l'histoire de la saisie. Il lui dit qu'il n'avait pas d'argent. Elle le supplia d'en trouver. Il ne voyait pas comment.
« Si j'étais à ta place, moi, j'en trouverais bien.
Où donc ?
Chez ton patron ?»
Ses yeux flamboyaient. Il la crut folle et prit peur.
« Il faut que je parte, ma chérie, » dit-il nerveusement. « Je chercherai le moyen de t'aider. Excuse-moi. Adieu !»
Et il partit. Elle retourna à Yonville. Le lendemain, elle fut réveillée à 9h du matin par un bruit de voix sur la place. Il y avait un attroupement pour lire une grande affiche collée sur un mur.
« Madame, madame !» s'écria Félicité en entrant. « C'est horrible !»
Et la pauvre fille, émue, lui tendit un papier jaune qu'elle venait d'arracher à la porte. Emma lut en un clin d'œil que tous ses meubles étaient à vendre. Elle était désespérée. Soudain, elle se frappa le front, poussa un cri, car le souvenir de Rodolphe, comme un éclair dans une nuit sombre, lui était apparu. Il était si bon, si généreux. Elle partit aussitôt vers la huchette. Elle monta le large escalier et entra dans la chambre de Rodolphe. Il était devant le feu, en train de fumer une pipe.
« Tiens, c'est toi ?»
dit-il en se levant brusquement.
« Oui, c'est moi. Je voudrais, Rodolphe, te demander un conseil. »
« Tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi charmante. »
Elle soupira. « Oh, Rodolphe, si tu savais, je t'ai bien aimée. »
Elle était ravissante à voir. Il la tira sur ses genoux. Elle penchait son front. Il déposa un baiser sur ses paupières, tout doucement, du bout des lèvres. « Mais tu as pleuré, » dit-il. « Pourquoi ?»
Elle éclata en sanglots. « Eh bien, je suis ruinée, Rodolphe. Tu vas me prêter 3 000 francs. »
Oh, pensa Rodolphe, qui devint très pâle tout à coup. C'est pour cela qu'elle est venue. Enfin, il dit d'un air très calme. Je ne les ai pas, chère madame. Il ne mentait pas. Il venait de faire de gros achats. Elle resta d'abord quelques minutes à le regarder.
Tu ne les as pas ?
Elle répéta plusieurs fois.
Tu ne les as pas ? Tu ne m'as jamais aimée ! Tu ne vaux pas mieux que les autres. Moi, je t'aurais tout donné. J'aurais tout vendu pour toi.
Je ne les ai pas, répondit Rodolphe toujours avec calme. Elle sortit. Les murs tremblaient. Tout tremblait autour d'elle. Elle voulut rentrer chez elle. Elle se sentait mal, très mal. Puis elle s'arrêta. Elle regarda une dernière fois le château et se mit à rire nerveusement et courut comme une folle jusqu'au village. Une fois arrivée devant la boutique du pharmacien, elle regarda par la fenêtre et vit qu'on dînait. Elle attendit. Soudain, elle vit sortir Justin. Elle se précipita vers lui.
« La clé !» lui dit-elle. « Celle d'en haut, celle du Capharnaüm.
Comment ?»
Et il la regardait, tout étonné par la pâleur de son visage.
« Je la veux ! Donne-la-moi ! Il faut que je tue des rats qui m'empêchent de dormir !»
« Je dois avertir monsieur !»«
Non, ce n'est pas la peine. Vite, ouvre-moi. Je suis pressée !»
Il la conduisit au Capharnaüm et lui ouvrit la porte. Elle alla tout droit vers la 3e étagère, saisit la bouteille bleue, en arracha le bouchon et fit tomber dans sa main la poudre blanche qu'elle avala aussitôt.
« Arrêtez !» s'écria Justin en se jetant sur elle.
« Ne dis rien, tout retomberait sur ton maître !»
Et elle s'en retourna chez elle, apaisée. Quand Charles, bouleversé par la nouvelle de la saisie, était rentré à la maison, Emma venait d'en sortir. Il la chercha partout, ne la trouva pas, et rentra chez lui à la tombée de la nuit. Entre-temps, elle était revenue. Il monta dans sa chambre et la trouva couchée tout du long sur son lit. Elle dormait. Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Elle entrevit Charles et ferma les yeux.
Ah, oh, c'est bien peu de chose, la mort, pensa-t-elle. Je vais mourir et tout sera fini.
Cet affreux goût d'encre continuait.
J'ai soif, j'ai bien soif, soupira-t-elle.
Qu'as-tu donc, dit Charles, qui lui tendait un verre.
Ce n'est rien. Ouvre la fenêtre, j'étouffe.
Il la questionna. Elle ne répondit pas. Elle sentait un froid de glace qui lui montait des pieds jusqu'au cœur.
Ah, voilà que ça commence,
murmura-t-elle.
Que dis-tu ?
Elle se mit à vomir. Charles remarqua qu'il y avait au fond de la cuvette une sorte de poudre blanche.
C'est extraordinaire, c'est étrange,
répéta-t-il. Mais elle dit d'une voix forte :
Non, tu te trompes.
Alors, délicatement, il lui passa la main sur l'estomac. Des gouttes de sueur apparurent sur ses tempes. Elle claquait des dents. Elle gémissait.
Soudain, un hurlement sourd lui échappa. Des convulsions la saisirent. Elle s'écria :
Ah, c'est atroce ! Mon Dieu !
Charles se jeta à genoux contre le lit.
Parle ! Qu'as-tu mangé ? Réponds au nom du ciel !
Eh bien, là, là,
dit-elle d'une voix très faible. Il vit le secrétaire. Il y avait une lettre. Il la prit et lut tout haut. Qu'on n'accuse personne. Puis il vit le mot « empoisonné ».
Il perdit la tête. Il fit venir Homais, qui lui conseilla d'appeler le docteur Larivière. Pendant ce temps, Emma allait de plus en plus mal. Elle commença à vomir du sang. Elle souffrait atrocement. Charles devenait fou. Le docteur Larivière arriva enfin.
Il monta aussitôt la voir.
« Elle est bien mal, n'est-ce pas ? » fit Charles. « Que pouvez-vous faire ? Trouvez quelque chose, vous qui avez sauvé tant de vies !»
Le docteur le contempla tristement. « Allons, mon pauvre garçon, du courage. Il n'y a plus rien à faire. »
Emma se mit alors à hurler et à se tordre de douleur.
Puis, plus rien. Elle se tut et demeura immobile. Le docteur et Charles s'approchèrent. Elle n'existait plus.